Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et bienvenue dans À votre avis, votre émission quotidienne de débat sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique ici à Washington. Grève des enseignants à répétition au Sénégal, au Mali, au Gabon, en République démocratique du Congo. Au Zimbabwe, par exemple, quelques 135 000 enseignants sont suspendus. Ils ne se sont pas présentés à la rentrée des classes pour protester contre les salaires trop bas. Au Mali et au Burkina, des écoles sont fermées à cause de menaces djihadistes qui ont amené des enseignants à déserter les classes. Un enfant qui ne va pas à l'école aujourd'hui va devoir faire autre chose demain pour survivre. Alors, quel est l'état des lieux de l'enseignement dans votre pays? Quelles initiatives doivent être prises pour soutenir le corps enseignant? Que faire pour sauver les écoles dans vos pays? Si vous souhaitez participer à cette émission en direct, appelez-nous tout de suite. Laissez-nous vos coordonnées au 001 202 205 26 33 ou le plus 1 si vous nous appelez avec un téléphone portable, plus 1 202 205 26 33. Et bien sûr, on vous rappelle. Alors, vous êtes très nombreux à nous avoir laissé vos réactions et vos commentaires sur la page Facebook. Je vais en lire quelques-uns pour démarrer l'émission. Pour Youssouf Keïta, depuis Conakry, lui, il démarre. Il dit, si le président de la République est président, c'est grâce à l'école. Et c'est la même chose qu'il s'agisse de docteurs, d'ingénieurs, de comédiens ou même de paysans du fond du village. Écrit-il, tous passent par un moment à l'école et c'est grâce à l'école qu'ils sont devenus ceux qu'ils sont. Et il insiste, donc dans son pays, la Guinée, le taux d'analphabétisme est très élevé et les enfants étudient parfois au sol, faute de bancs. Alors pour lui, l'État devrait accorder 50% de son budget à l'éducation si l'État veut être sérieux. Pour Edine Zeza de Matadi en RDC, pour lui, il faut que les gouvernements africains baissent les trains de vie des politiciens et augmenter les trains de vie des enseignants. C'est l'une des solutions, voilà, celle d'Edine Zeza de Matadi en RDC. Et puis pour Sedou Kane de Dakar, ici au Sénégal, l'État ne respecte pas les enseignants. Il signe des accords qu'il ne respecte pas. Le système de rémunération de la fonction publique met la corporation enseignante au plus bas niveau de l'échelle. La politique politicienne prime sur l'éducation de nos enfants. Les enseignants ne sont pas respectés au Sénégal. Voilà. Alors, également, nous a laissé un message depuis Bamako, Mali. Il s'agit de Massa Bagayoko. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, pour vous, l'état de l'enseignement au Mali est très dégradé et chez vous aussi, hein, les salaires sont trop bas. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quelle est la situation aujourd'hui au Mali?
Ok, merci de m'avoir posé la question. Aujourd'hui au Mali, actuellement, l'état de l'enseignement est vraiment très dégradé. Oui, c'est dû en partie par la baisse du salaire des enseignants. Quoi. Parce que la plupart des enseignants qui sont dans les écoles publiques et dans les écoles privées, donc à cause de l'insuffisance de leur salaire, ils se chargent trop. Pour pouvoir gagner leur fin quotidien. Il y a des enseignants qui, par exemple, ont plus de désert. On ne doit pas, un enseignant ne doit pas avoir donc pendant une journée. Il y a des enseignants qui ont plus de 70 heures par jour. Donc, cela s'explique par leur manque de la baisse du salaire. Donc, et quand un enseignant a 70 heures par jour, ça veut dire que la qualité, ce qu'il va donner aux enseignants en classe, la qualité sera vraiment très bas. Il ne va pas pouvoir préparer ses leçons correctement pour enseigner, c'est-à-dire les leçons qui sont confiées à lui. Donc, il va essayer de de remplir seulement les formulaires, on ne va pas se focaliser sur l'essentiel. C'est ce qui fait qu'il y a des anciens, ils ne préparent même pas leur leçon. Ils quittent une salle de classe, ils rejoignent l'autre salle de classe là-bas. Donc, ils donnent la qualité est devenue faible. La qualité de l'enseignement est devenue faible. C'est ce qui a vraiment causé aussi le niveau des élèves aussi.
Merci beaucoup, monsieur Bagayoko. Vous écoutez VO Afrique depuis Bamako, Mali. Direction le Tchad à présent. Nous avons Docta Deimono avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir Claire.
Bonsoir et merci de votre participation à l'émission. Alors, vous nous avez écrit, 4 sur 10, c'est la note que j'attribue à l'enseignement dans mon pays, le Tchad. Alors, pourquoi cette mauvaise note?
Déjà parce qu'il faut être objectif. Et je rejoins le commentaire que vous avez dit il y a à peine quelques minutes. Il y a quelqu'un qui a donné, comme quoi il disait qu'il fallait réserver 50% du budget de l'État à l'enseignement. Donc moi, je crois que c'est le principal paramètre qui permet de juger et de noter nos États. Donc je donne 4 sur 10 dans mon pays parce que j'ai constaté que ce n'est pas la priorité de l'État.
Et alors, vous entend très bien.
Moi, ce que je suggère, c'est que au moins les 2/3 du budget de l'État doivent être consacrés à l'éducation et la santé. Je ne sais pas qui contient la différence entre l'éducation et la santé, mais pour moi, au moins les 2/3. Et après, ce que je souhaite vraiment, c'est que ce soit une volonté politique. Il faut que nos dirigeants sachent que diriger, c'est un apprentissage. Il faut des gens compétents. Et pour ça, il faut des bonnes écoles, il faut des bonnes études. Donc la volonté doit venir de l'État. C'est-à-dire qu'il faut que l'éducation passe avant la sécurité, l'éducation passe avant les infrastructures, et vraiment que ce soit la priorité. Et ensuite, moi, ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que l'enseignant, moi dans mon pays particulièrement, que ce soit en ville ou bien en zone rurale, je félicite et je tire le chapeau à tous les enseignants. Parce que vraiment, c'est des gens qui font beaucoup d'efforts, qui ont beaucoup d'ingéniosité, pour permettre à des jeunes, parfois des jeunes démunis, qui n'ont même pas la possibilité d'avoir des temps de classe, et de faire des études et de progresser. Alors, donc, vraiment, après avoir investi ou priorisé l'éducation, il faut que l'État sache qu'on doit assister les enseignants, on doit les accompagner. On doit les accompagner dans tous les sens. Un enseignant, c'est pas quelqu'un qui doit gréver, un enseignant, c'est pas quelqu'un qui doit manquer de bibliothèque. Un enseignant, ce n'est pas quelqu'un qui ne pourra pas être en bonne santé. Donc moi, vraiment, voilà ce que je suggère. Et c'est par rapport à ça que j'ai donné une note à l'enseignement dans mon pays. Mais je suis optimiste et je souhaite vivement que ça change. Parce que je sais que les apprenants, les jeunes aujourd'hui dans ce pays, ils veulent apprendre. Alors c'est seulement cette volonté-là que je souhaite.
Merci beaucoup, monsieur Deimono. Vous écoutez VOA Afrique depuis le Tchad. Direction le Niger à présent. Nous sommes avec Inoussa Djibo depuis Niamey. Bonsoir.
Bon, ça va.
Mais très bien, et vous-même?
Oui, ça va bien, ça va.
Parfait. Alors, vous nous avez laissé un message, alors, pour vous décrivez l'enseignement au Niger. L'enseignement est malade, le système est précaire. Et vous évoquez une véritable hypocrisie et un abandon, j'imagine, de la part des autorités, de la part du gouvernement.
Oui, effectivement, parce qu'il faut reconnaître cela, c'est un état de fait réel. Parce que en ces derniers temps, on constate qu'en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne particulièrement, nous assistons à une dégradation croissante du système éducatif. Et cela, dans un premier temps, à travers l'épisode douloureux que subit le peuple du Sahel, ce qui a occasionné effectivement la fermeture d'un nombre important des écoles. Au-delà de cet état de fait, il est aussi nécessaire de constater un paradoxe du point de vue du gouvernement. Parce que le paradoxe est que, malgré ce système éducatif véritablement à terre, vous constaterez qu'il existait dans nos États actuellement, surtout dans nos États de l'Afrique de l'Ouest, il existait aussi des soupçons de corruption, de scandales grotesques. Souvent même des détournements des deniers de fonds publics qui peuvent servir donc à accroître et à améliorer dans un premier temps le système éducatif en faisant, en créant et en renouvelant justement les infrastructures et en améliorant les conditions éducatives. Donc c'est pourquoi moi j'ai constaté ce paradoxe-là en évoquant bien sûr un abondant et donc une négligence et même une faible volonté de la part donc des gouvernements qui tardent ou bien qui néglige un peu le système éducatif, sinon le secteur clé donc de l'éducation. Voilà. Donc au-delà donc de, parce que il faut dire que le problème, les dangers liés à ce problème, le problème lié, les problèmes sont complexes, les problèmes de l'éducation sont complexes, c'est vrai, il faut le dire. Mais aussi il faut parler justement de cet abandon-là, donc de ce paradoxe-là entre comment on appelle mal gouvernance et aussi négligence donc du point de vue donc du système éducatif. Donc quand on parle par exemple donc des perspectives, quand on propose des solutions liées à ce problème, je pense que la question doit interpeller tous les acteurs sociaux donc de la société, tous les acteurs sociaux. Et cela, dans un premier temps, le corps social et le corps politique à revenir sur la table et revoir le problème, les enjeux liés justement à ce problème-là, pour encore renforcer et redynamiser donc le système éducatif, en allouant un budget conséquent, n'est-ce pas, à ce secteur clé, puisque le problème en Afrique, de manière générale, ce n'est pas seulement le paludisme ou la pauvreté. Le danger de l'Afrique en général, c'est aussi l'ignorance, madame.
Merci beaucoup, monsieur Djibo. Vous êtes à Niamey, au Niger. Direction Conakry, à présent, en Guinée, nous avons Abdourahman Koulibaly avec nous. Bonsoir.
Bonsoir, vous, Afrique. Bonsoir, le monde entier.
Bonsoir. Alors, pour vous, hein, ensemble, il est important de promouvoir l'apprentissage de la jeunesse. Et vous parlez d'un véritable capital humain. Alors, quel est l'état des lieux, hein, je vous repose la question, monsieur Koulibaly, en Guinée, de l'enseignement.
L'enseignement en Guinée, on a beaucoup de problèmes face à cette il nous faut repenser dès maintenant, ce n'est pas pour la Guinée seulement, mais aussi le continent africain, pour le monde entier. Parce que cette crise sanitaire a joué sur l'économie mondiale, donc ça a joué sur notre éducation. Donc, ODD, ça n'a pas pu bouger, quoi. C'est l'éducation de qualité, quoi, de la jeunesse mondiale. Donc, il nous faut dès maintenant repenser notre système éducatif et renforcer les financements, les infrastructures, l'éducation, parce que déjà, les lois sont en voie de résolution, pour permettre à la jeunesse mondiale maintenant d'avoir l'environnement sain, quoi, pour tout un monde.
Merci beaucoup, monsieur Koulibaly. Désolé, la ligne est très mauvaise. Donc, pour vous, hein, la jeunesse, il faut investir dans la jeunesse qui est le véritable capital humain. Vous nous écoutiez depuis Conakry, en Guinée.
À votre avis sur VOA Afrique.
Et oui, vous êtes bien à l'écoute d'Ava, à votre avis sur VOA Afrique. Aujourd'hui, nous faisons un état des lieux de l'enseignement en Afrique. Alors, bien entendu, hein, grève des enseignants à répétition au Sénégal, au Mali, au Gabon, en République démocratique du Congo, au Mali, au Burkina. Ce sont des écoles qui sont fermées à cause des menaces djihadistes. Alors, quelles initiatives sont prises ou doivent peuvent être prises pour soutenir dans votre pays, pour soutenir le corps enseignant? Que faire pour sauver les écoles dans votre pays? Voilà, si vous souhaitez participer, un seul numéro de téléphone, le +1 202 205 26 33, le +1 202 205 26 33, et bien sûr ça vous permettra de participer en direct à l'émission. Alors depuis Thiès au Sénégal, nous avons Pape Eladji Mohamed Diaye avec nous. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Alors, racontez-nous, quelle est la situation au Sénégal qu'est-ce que vous constatez, et est-ce que on va pouvoir sortir de ces semaines de grève? Comment peut-on sortir de ces semaines de grève?
Oui, je pense que ce ne sera pas facile. Hein, ce ne sera pas facile. Ce que je voulais d'abord, c'est que la promesse du président de la République ne vaut pas décision. Ça, même Diambra l'a compris maintenant. Ce qui est donc vraiment important, c'est que les enseignants puissent savoir, comprendre cela et ne pas juste se fier aux promesses. Et nous avons, un problème avec la promesse de nos dirigeants. Donc, ils font des promesses et après, il n'y a pas de suite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Macky Sall lui-même a fait donc la proposition, effectivement, encore donc une autre promesse, il faut dire, n'est pas d'augmenter les salaires des enseignants, mais il demande aux enseignants de lui laisser jusqu'en 2025 pour pouvoir appliquer, n'est-ce pas, cette proposition-là. Et donc ça devient un peu difficile. Et c'est pourquoi nous pensons que ce sera très difficile, n'est-ce pas, de venir vraiment corriger le tir. Donc voilà, c'est ça un problème un peu complexe. Et surtout, là, il n'est même pas question de ce salaire, mais surtout d'indemnité, hein, voilà, pour être plus précis, d'indemnité. Et voilà. Le problème, en tout cas, est un peu trop complexe. Mais on peut noter également des différences entre les fonctionnaires des différents GHU. Voilà, les GHU, ABC, voilà. Et donc, les différents traitements qui les séparent est quand même un peu trop sérieux.
Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye. Vous écoutez VOA Afrique depuis Thiès, au Sénégal. Direction la RDC, Kinshasa, la capitale, avec Jonathan Chiswaka avec nous. Bonsoir.
Bonsoir, VOA. Bonsoir à tous les auditeurs.
Bonsoir. Alors vous êtes le premier auditeur à nous avoir écrit quelque chose d'un petit peu positif. Pour vous, le gouvernement prend ce problème à bras le corps. Alors, que fait exactement le gouvernement congolais pour l'enseignement chez vous?
Oui, le gouvernement prend les problèmes à bras le corps. On dit que c'est un pilier qui tient vraiment au président de la République pour la réussite de son mandat. Le gouvernement a, depuis l'accession du président Tshisekedi du pouvoir, a augmenté les salaires des enseignants. A augmenté les salaires des enseignants et a pris en charge déjà à ce moment plus de 30 000 enseignants qui n'étaient pas payés, qui n'étaient pas pris en compte dans les budgets. Et cela fait en sorte qu'on puisse avoir la partie d'enseignement de base au niveau primaire. Et malgré cette augmentation, on trouve que l'augmentation n'est pas du tout suffisante. Il faut encore augmenter. Et c'est ainsi que le gouvernement prend encore les problèmes en main et projette encore certaines augmentations au cours de cette année pour que les problèmes de grève ne puissent pas intervenir à chaque rentrée scolaire. Vous voyez, le gouvernement le régime actuel a trouvé les salaires des enseignants à 80 000 francs et 100 000 francs. Et maintenant, les enseignants qui sont payés sont à 398 000 francs pour certains, 298 000 francs pour 400 000 pour ceux qui sont dans les villes, dans Kinshasa et Lubumbashi. Dans d'autres villes, c'est 360 000 et dans les villages, c'est 298 000 francs congolais pour le salaire des enseignants. Ce qui fait en sorte que nous sommes maintenant dans une phase où l'école primaire est gratuite et l'école secondaire, des fois, connaître la baisse de prix, des frais et l'erval que les parents payaient pour prendre en charge les salaires des enseignants, malgré qu'il y a encore beaucoup à dire sur ce erval-là.
On a pourtant plusieurs auditeurs hein, qui ont dit que bah, la situation n'était pas aussi rose que ça en RDC, notamment Shuna Kayowa Ngindu qui écrit « Les enseignants méritent beaucoup, mais ils sont encore très négligés ». Est-ce que vous pensez quand même qu'ils sont encore trop négligés ?
Les enseignants, vous voyez, ils touchaient 100 000 francs. Maintenant, ils touchent 400 000. C'est-à-dire que c'est un processus. 100 000 francs, c'était 50 dollars avant. Et maintenant, ils sont à 200 dollars. C'est un processus. Ce n'est pas, je ne crois pas qu'il y ait un gouvernement qui ait un bateau magique. Non, le gouvernement travaille dans le sens d'aller progressivement vers une prise en charge des enseignants qui sera optimale, qui va permettre à ce que les enseignants ne puissent pas souffrir de certains besoins sociaux. Je crois que, au fur et à mesure qu'on évolue avec ces nouveaux systèmes au Congo, la gratuité n'existait pas depuis l'indépendance. Et c'est un nouveau système.
C'est un nouveau système, d'accord. On a bien compris que pour vous, il y a du progrès. Merci beaucoup, Monsieur Chiswaka. Donc, vous écoutez VOA depuis Kinshasa, en RDC. Nous sommes de retour au Tchad, à Djamena, avec Archiduc Théodore et avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Michel Joseph.
Alors là, c'est Claire Morajibour, mais Michel n'est pas loin. Au Tchad, vous écrivez-nous, les enseignants scientifiques ont déposé leur craie, écrivez-vous. Alors, pourquoi et que faut-il faire, selon vous ?
Oui, pour renforcer le système éducatif dans le domaine des sciences, en 2019, le gouvernement tchadien avait recruté des enseignants scientifiques. Mais comme ces enseignants ne reçoivent pas leur dû, comme leur salaire n'est pas payé conformément comme il le faut, ces derniers ont décidé unanimement d'entrer en grève parce que tout travail mérite salaire. Et le salaire, c'est quelque chose, c'est une régulation qui permet à ceux-là de subvenir à leurs besoins et beaucoup plus les besoins de nécessité. Donc, depuis presque 3 mois, ces derniers sont en grève et exigent le paiement de leur salaire. Et dans la promesse qui leur a été faite, ceux-là devraient être intégrés après 2 ans de recrutement. Mais il y a certains qui sont recrutés d'une manière clandestine et d'autres sont là sans salaire ni augmentation avec des situations de travail vraiment précaires. Donc, cela exige 2 points, le paiement intégral de leur arriéré de salaire et aussi leur déversement dans la fonction publique, c'est-à-dire l'intégration.
Donc, très bien, merci beaucoup, Monsieur Archiduc Théodore. Vous êtes à Djamena, au Tchad. Pour finir, nous avons Monsieur Daouda du Mali, je crois. Bonsoir.
Oui, bonsoir, vous allez bien?
Oui, très bien, et vous-même?
Oui, ça va bien, merci.
Alors, vous nous avez écrit et vous nous écoutez depuis le Mali. Alors, pour vous, hein, la situation est vraiment alarmante car les écoles publiques qui accueillent en majorité les enfants dont les parents n'ont pas les moyens sont délaissées par les autorités. Dites-nous, on va terminer l'émission avec vous, Monsieur Daouda. Racontez-nous un peu plus sur ce qui se passe au Mali.
Oui, comme je l'ai si bien dit dans mes commentaires, c'est-à-dire que la situation des écoles publiques, là, vraiment, elle est vraiment alarmante. Voilà, parce que ce sont ces écoles publiques-là qui accueillent en majorité les enfants issus de familles vraiment défavorisées, issus de familles vraiment analphabètes, c'est-à-dire que les parents n'ont pas les moyens, non seulement, eux-mêmes n'ont pas été à l'école. Donc, ces écoles publiques-là sont, c'est-à-dire que les sources même qui permettent à ces enfants-là d'avoir accès à l'éducation. Mais malheureusement, force est de constater sur le terrain que ces écoles-là sont délaissées par les autorités. C'est-à-dire que la majeure partie de ces écoles-là sont à l'état brut. comme je l'ai dit, c'est-à-dire que depuis qu'elles ont été construites, il n'y a pas de travaux de réhabilitation, il n'y a pas de retouches. Moi-même, l'école primaire que j'ai fréquentée, jusqu'à présent, elle est à la même forme. Les salles de classe sont pareilles. Vous voyez, donc maintenant, présentement, il n'y a pas de fenêtres dans certaines salles de classe pendant la période hivernale.
Malheureusement, c'est déjà la fin d'À votre avis, votre émission de débat sur VOA Afrique. Un grand merci à John Dryden qui était à la console, à Georges Léonard Sagnou qui était à la réalisation. Claire Morin-Gibourg était au micro. Rendez-vous sur Facebook où la discussion continue. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.